Vienne.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, de la Fédération anarchiste, et c'est l'entonnoir émission critique de la psychiatrie, comme souvent le mercredi matin. Et aujourd'hui, c'est une rediffusion, la rediffusion d'une émission du 20 novembre 2019, où nous invitions Yannick, qui représentait le collectif de liberté d'expression des autistes. Eh bien, voilà. Eh bien, nous vous proposons de l'écouter. Alors, oui, le collectif de liberté d'expression des autistes, c'est l'association qui a pour adresse URL de site. Le clé autiste. Alors c'est asso.clé-autiste avec un s.fr. Alors nous écoutons donc cet entretien avec Yannick. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Yannick. Salut Yannick.
Enchanté.
Alors Yannick, tu fais partie d'un collectif ?
Oui, collectif de liberté d'expression des autistes.
Et voilà, eh bien, tu es venu nous parler un peu de ton expérience avec la psychiatrie.
C'est ça.
Et pour ouvrir en quelque sorte l'émission, eh bien, je propose que nous écoutions un morceau que tu as choisi toi-même, le prélude de la suite numéro 1 de Bach, plus exactement.
Thank you.
Radio Libertaire, l'entonnoir, on vient d'entendre l'ouverture du prélude de Bach numéro 1. Et voilà, et Yannick, bon, c'est toi qui as choisi ce titre. Et ben, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît?
Alors, bon, je m'appelle Yannick, je suis... ce qu'on peut appeler en termes général une victime de la psychiatrie. J'ai un vécu assez houleux au niveau psychiatrique. Faut savoir que je suis autiste, autiste HPI, et j'ai été depuis à peu près ma petite enfance dans les rouages de la psychiatrie. Depuis que j'ai 6 ans, on me forçait en quelque sorte à aller au CMP. On me demandait pas mon avis. On me disait que j'avais un problème, que j'étais pas normal, que j'étais pas comme les autres, voilà quoi, c'est typique d'un cas d'autisme en général, malheureusement. Les autistes sont pour certains, ils sont carrément hospitalisés quasiment à vie dans un hôpital psychiatrique. On les voit jamais sortir. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous pouvez imaginer une société où il y a des chiens et des chats. Et dans cette société, y en a un qui domine l'autre, et ça, c'est pas cool, quoi. Voilà, c'est un peu ça, l'autisme face au neurotypique. Il est différent. Ça peut être sur d'autres cas aussi, hein, y a pas que l'autisme, hein, mais il est différent, et donc il faut le cloîtrer, le mettre à part de la société pour éviter de salir entre guillemets la société. Enfin voilà, c'est typiquement. Je pense qu'il y a un impact politique assez prononcé dans les idéologies de la psychiatrie. Je dirais que c'est un peu comme une pieuvre qui serait tentaculaire, qui se nourrirait de la vie des êtres humains, qui respecte pas leurs choix, qui les enferme, qui les drogue. Enfin, voilà, c'est ça ce que je vois de la psychiatrie. Depuis mes 6 ans, j'ai été en quelque sorte psychiatrisé. J'ai été enfermé à l'âge de 14 ans suite à des problèmes d'angoisse parce que à l'école j'étais pas très en tant que personne différente, j'étais plutôt mal accueilli, on va dire, et je me faisais tabasser, et donc j'ai décidé à un moment de plus aller en cours. Et pour cette raison, mes parents sont assez victimes aussi de ce système, hein, même s'ils sont très influençables. Malheureusement, ils sont plutôt à suivre les doctrines de la psychiatrie. C'est à peu près comme la plupart des gens. Hein, tout le monde est influençable à un certain degré. Mes parents ont accepté, entre guillemets, de m'enfermer, de me droguer, parce que il y avait sans doute une pression de la psychiatrie, des psys et tout ça. C'est un peu comme si j'avais été puni sans vraie raison, sans avoir une... sans qu'il y ait une logique derrière, en fait. Parce que la logique, c'était on t'enferme parce que t'es pas normal, parce que tu prends des colères, tu fais des choses comme ça, et donc t'as pas le droit de vivre en société parce que t'es pas comme nous. Voilà. La logique, c'est on va te droguer parce que t'es pas adapté. Voilà. Et donc ça m'a répugné. J'ai eu un traumatisme, ce qu'on appelle un PTSD. Pendant plusieurs années, je supportais pas tout ce qui avait un lien de près ou de loin avec la psychiatrie. Je refusais totalement de. Je pouvais pas supporter d'entendre parler de psychiatrie. J'essayais de. Chaque fois que j'étais en public et que j'entendais parler de psychiatrie, je prenais sur moi pour essayer d'évincer cette crainte, cette horreur que j'avais en moi. J'ai souvent été traité de malade par des gens au quotidien. J'ai tendance à dire que la psychiatrice, les psychiatres stigmatisent les patients. Parce que justement, ils ont un certain pouvoir là-dessus. C'est une espèce de jouissance. Pour eux, c'est comme si on leur empêchait de pratiquer la psychiatrie. C'est un peu comme s'ils perdaient un certain pouvoir. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils continuent dans ce sens-là, dans ce sens de la contention, tout ce qui est la médication forcée et tout ça. C'est un peu comme des singes, en fait. Ils ont un pouvoir et ils veulent le conserver. Voilà. Les singes, ils veulent être le chef de la tribu. Et ben voilà, les psychiatres, ils ont un peu cette tendance-là à vouloir posséder les patients, à vouloir les garder sous leur aile, sans pour autant. En réalité, un médecin, ce serait quelqu'un qui répare, pas quelqu'un qui prend sous son aile et qui va dire oui, vous êtes mon patient et vous n'avez pas vraiment votre mot à dire. Ça, non. Moi, je pense qu'un médecin devrait être quelqu'un qui a plus qui est un peu plus en dessous du niveau du patient, qui serait en service du patient, qui servirait le patient, et pas qui prendrait le patient comme un objet j'ai été à plusieurs reprises, j'ai été enfermé. J'ai eu 3 hospitalisations distinctes. Une quand j'avais 14 ans environ. Oui, quand j'avais 14 ans, j'ai été enfermé. On m'a prescrit de la Abilify, non pas de la Abilify. On m'avait prescrit du Risperdal. Le Risperdal, il paraît que ça fait des problèmes de mémoire. J'ai eu des soucis de mémoire à court terme. J'arrive pas, quand je parle, des fois, là j'ai pris des notes, évidemment, mais des fois, quand je parle, j'oublie ce que je voulais dire. J'ai parfois des trous de mémoire assez importants, en pleine discussion. Et donc, ça m'handicape assez. Et ça peut venir soit du Risperdal, soit du PTSD qui m'a traumatisé depuis que on m'enferme parce que je suis pas capable de pas me faire tabasser à l'école. Voilà. Et
excuse-moi, PTSD, c'est l'acronyme de quoi ?
Alors, c'est en anglais, c'est Post-Traumatic Syndrome Disease.
Ah, oui.
C'est le syndrome post-traumatique. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on peut ressentir quand on a un traumatisme. On a un syndrome post-traumatique, c'est qu'on on peut avoir des pertes de mémoire, on peut avoir on peut ne plus supporter d'être dans une telle ou telle situation ou d'entendre telle ou telle chose qui ont un rapport avec le traumatisme en question. Et donc ça met le cerveau en plusieurs états différents. Ça peut mettre le cerveau en plusieurs états différents. L'état principal du syndrome post-traumatique, ce serait plutôt ce qu'on appelle faire le mort, c'est-à-dire l'autodéfense, être figé, ne plus pouvoir penser, ne plus pouvoir réagir. Il y a aussi deux autres cas, c'est la défense ou l'attaque, enfin la réaction plutôt qui peut être violente par rapport à certains traumatismes. Et il y a aussi la fuite. La fuite, c'est essayer de ne pas voir les choses en face et de ne pas pouvoir. C'est les trois réactions entre guillemets animales de l'être humain par rapport à ce qui peut être dangereux pour lui, à ce qui peut être est-ce qu'il peut interpréter par son réseau neuronal comme un danger. Et donc oui, j'ai dit que j'avais du risperdal et j'avais aussi eu de l'abilify. Et ça, l'abilify, ça c'est quelque chose qui est dramatique. C'est quelque chose qui quand tu l'arrêtes, ça te rend complètement complètement naze, tu as besoin à la limite de reprendre pour redevenir énergétique. En gros, ils m'ont détruit mon énergie, ils m'ont cassé mon élan d'énergie. J'étais hyper sportif avant, je faisais beaucoup de choses. Alors il paraît que le cerveau est plastique, donc ça c'est pas mal, ça veut dire que peut-être je retrouverai cette énergie, mais ça peut être dramatique aussi. Par exemple, je connais quelqu'un que je fréquente sur Twitter, qui s'appelle Ben, qui est Ben avec une suite de numéros dans son pseudo. Cette pauvre personne a été victime de trahison par des membres de sa famille qui l'ont conduit à l'hôpital psychiatrique, et donc il a eu des traitements lourds et il a fui la France carrément parce qu'il pouvait plus rester dans ce pays où la psychiatrie est comme une doctrine, comme une règle. Comme quelque chose qui, dès que tu vas pas bien, il faut que tu ailles en psychiatrie. Dès que tu vas pas bien, tu dois te faire soigner, tu dois te faire médiquer, tu dois prendre des médocs. Et ça, c'est typiquement, c'est ce qu'on appelle la psychophobie en général. Bon, moi, je préfère le terme de sanisme, personnellement. Et donc, j'ai rencontré cette personne sur Twitter. J'ai rencontré d'autres personnes sur Twitter, par exemple Asperger Defense, qui est un autiste Asperger qui s'est fait détruire, qui a des problèmes énormes de mémoire, qui s'est fait détruire sa mémoire, sa vie en fait, par la psychiatrie, et qui lutte contre l'enfermement abusif, la contention et toutes ces choses et toutes ces joyeusetés. Et donc j'ai un compte Twitter aussi. Alors le compte Twitter, c'est twitter.com/ C majuscule Yannick en toutes lettres, YA2NICK, 1, le chiffre 1. Voilà, C majuscule, YA2NICK, 1. Voilà. Et donc, si j'écoutais ces médecins, en fait, j'aurais toutes les maladies du monde et toutes les maladies mentales du monde. Et donc, j'en conclus que de toute façon, ces diagnostics, quand on les diagnostique à vie, c'est complètement bullshit. Donc, voilà. Ça, la, 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 Il y a aussi les problèmes de suicide. Alors personnellement, j'ai aucun problème de suicide à ce niveau-là. Mais je sais que, par exemple, mon ami Ben a eu des pensées suicidaires à cause de la psychiatrie, notamment. Et bon, moi, j'ai vraiment pas de problème à ce niveau-là, parce que je me répète sans arrêt deux phrases assez importantes qui peuvent aider quand on est en difficulté, quand la vie entière est complètement atroce. Eh ben, on peut penser toujours deux phrases. Il y a la phrase « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Donc bon, l'espoir fait vivre, hein, et puis inversement aussi, tant qu'on vit, on peut toujours espérer. Il y a toujours moyen de se relever quand on est tombé, il y a toujours moyen de faire quelque chose ou de penser à quelque chose pour avoir autre chose que le malheur dans la tête. Il y a aussi la deuxième phrase, c'est « après la pluie, le beau temps ». Donc ça, c'est typiquement, ça c'est une phrase qui parle d'elle-même, quoi. Et donc, enfin, faut interpréter, hein, évidemment. Moi, j'aime bien la pluie personnellement, mais ça dépend ce qu'on voit avec la pluie ou voilà. Bon, moi, en tant qu'autiste, j'ai quand même la chance de pas être allé en HP directement ou en hôpital de jour, parce que la plupart des autistes sont en hôpital de jour. Hôpital, parce que comme s'ils étaient malades, hein. Alors qu'un autiste, en fait, l'autisme, c'est pas une maladie, c'est un handicap. Donc déjà, le fait de les enfermer dans des hôpitaux, c'est complètement... C'est une dinguerie française, quoi. Et quand on les enferme, en général, ils ont des problèmes de stimulation neuronale. Quand on enferme quelqu'un dans un hôpital, qu'il soit autiste ou pas d'ailleurs, il fait quasiment rien de sa journée. Au mieux, il fait quelques petites activités à la con, comme piscine ou je sais pas quoi. Au pire, on l'enferme, on le laisse. On peut le mettre carrément en contention dans une chambre d'isolement ou je sais pas quoi. En gros, il n'y a aucune activité pour stimuler son cerveau. Et le but derrière ça, je pense que c'est quand même de le transformer en larve, de le désactiver, toutes ses capacités neuronales de réaction, de pensée, de tout ça. Au lieu de le stimuler de façon neurologique, on va l'empêcher d'avoir des stimulations. C'est un peu comme si on le mettait... Je sais pas si vous connaissez la chambre blanche. C'est une torture qui est utilisée encore de nos jours, malheureusement. C'est on enferme des gens dans une salle toute blanche et on leur donne à manger que du riz ou des aliments blancs. Et au bout d'un moment, ils deviennent dingues. Hein. C'est, quand on enferme quelqu'un, ça l'aide pas. Hein. Ça, c'est sûr. Il devient dingue et il a des hallucinations. Quand on est enfermé dans une salle blanche pendant très longtemps, on commence à avoir des hallucinations. Et encore, je ne sais pas si c'est très longtemps, ça se trouve, c'est au bout de quelques jours seulement, on commence à avoir des hallus. Voilà. Donc l'Abilify aussi, c'est comme certains médicaments neuroleptiques ou certains psychotropes et tout ça, qui sont administrés comme ça, à la va-vite, n'importe comment, parce que c'est la meilleure solution, la plus rapide, la plus simple, pour se débarrasser des problèmes. En réalité, ça n'enlève pas les problèmes, ça les masque. Et en plus, l'Abilify, par exemple, pour mon ami Ben, par exemple, qui n'arrive même pas pour lui aller chercher son pain, c'est une bataille énorme, quoi. Il peut quasiment plus faire des activités. Il a besoin de se rééduquer, ça c'est sûr, mais là où il est parti, c'est pas forcément évident, surtout dans la situation dans laquelle il est. La psychiatrie, c'est destruction de vie à la clé. Ou alors, si ta vie n'est pas détruite, t'es intégré dans le système, t'es un sage petit soumis, et puis tu vas aller au travail tous les jours dans le métro bondé, et tu vas en gros, la psychiatrie, c'est te mettre dans les rangs. C'est pour ça que je dis qu'il y a une espèce de volonté politique en psychiatrie. La psychiatrie, c'est te renfermer dans les rangs Si t'es pas dans les rangs, bah t'es enfermé tout court. Voilà. Voilà.
En fait, le seul réconfort que les psychiatres vous apportent, c'est quand ils arrêtent de vous soigner.
C'est ça. En quelque sorte. C'est ça. Laissez-moi tranquille, c'est en gros la phrase que j'aimerais leur dire. Que j'ai pas envie de leur dire parce que j'ai pas envie de leur parler, déjà. Mais voilà.
Eh bien, nous allons continuer l'émission avec... Pardon.
J'avais une dernière chose à dire aussi.
D'accord.
Pour toutes les victimes de la psychiatrie, pour toutes les personnes psychiatrisées, ces personnes qui souffrent de psychiatrie, je tenais à vous dire, vous n'êtes pas fou. C'est quelque chose, ça, qui m'a beaucoup aidé. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas des malades. Vous n'avez pas des problèmes de maladie mentale qui vous rendent fou. Le terme de folie, en réalité, pour moi, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui peut être somatique, et dans ce cas, c'est neurologique ou autre. Mais ça n'existe pas d'être fou. Ou alors, c'est vraiment... C'est plutôt par rapport à un système donné. Quand on est fou, c'est par rapport à un certain type de système. Et donc, vous êtes juste, en fait, des reflets d'une société qui ne va pas bien. Vous êtes pas fou. Vous êtes juste pas dans votre élément. Vous n'êtes pas dans une société qui vous accepte. Et c'est juste ça. C'est plutôt la société qui serait malade. Et votre réaction, c'est une réaction normale à ce malfonctionnement de la société. Voilà.
Alors Yannick, tu as dit tout à l'heure, par rapport au traitement, tu as dit bullshit.
Ouais.
Et ça me rappelle que...
Par rapport au diagnostic.
Oui, le diagnostic, oui. Le réseau d'entente de voix... nous ont fait connaître une chanson, elle est en anglais, hein, qui s'appelle Bullshit. C'est une. Alors, le sous-titre, c'est Antipsychiatric and Anti-Medication Song. Bon, on va l'écouter.
They tell me my problem's genetic. I'm born with a flaw in my brain. They tell me I need medication and force me to bury my pain. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles. Their pills make me shaky and sweaty. I fear that they're breaking my will. They told me that this is quite normal and added another new pill. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles. They put me inside a straitjacket. They locked me inside of a cage. They inject me with Haldol to calm me. Yet wonder why I'm full of rage. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles. They give me a shrink I can talk.
Voilà une chanson ironique sur la psychiatrie. Eh bien, nous allons enchaîner avec un morceau que tu as choisi, Yannick. Alone, de Alan Walker.
Go. If this night is not great.
Alan Walker, Alone sur Radio Libertaire, à l'émission L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Vous êtes toujours, oui, donc sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et nous allons continuer avec. Nous allons continuer avec le. Quelques petites annonces. Ce sont des brèves. On va faire une petite revue de presse pour entamer la deuxième demi-heure de cette émission. Et Yannick, toi, tu pourras faire des commentaires si tu en as envie sur ces actualités. Alors. Je crois que ça vient de Paris Lutte Info. Entre guillemets, au CRA, l'infirmerie, c'est une boucherie. Donc le CRA, c'est le centre de rétention administrative. Un autre mort à Vincennes, ni oubli, ni pardon. C'est un article du 11 novembre 2019. Oui, en effet, cette émission est une rediffusion, la rediffusion de l'interview de Yannick du collectif de liberté d'expression des autistes du 20 novembre 2019. Le centre de rétention administrative est une machine à tuer. Luttons pour que la mort de Mohamed, prisonnier dans le CRA de Vincennes, ne soit pas oublié. Vendredi 8 novembre, un prisonnier est décédé au centre de rétention de Vincennes. Il s'appelait Mohamed et avait 19 ans. Il était enfermé depuis 28 jours. Au matin, ses co-détenus l'ont découvert entre la vie et la mort dans son lit. Ces derniers parlent d'une overdose survenue à la suite d'une prise d'un cocktail de médicaments. Quand ils l'ont appelé à l'aide, les flics ont mis des plombes à réagir. Finalement, une infirmière est appelée, faute de médecin sur place, et les pompiers ont mis une demi-heure à arriver, trop tard. Le parquet de Paris a, entre guillemets, ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, et la presse s'empresse de mettre en avant un mélange entre médicaments et stupéfiants. Mais où a-t-il trouvé ces médicaments ? Et ne sont-ils pas des stupéfiants ? À l'entrée du CRA, tout est saisi et mis au coffre. Ses camarades dénoncent la responsabilité des médecins du centre. C'est eux qui ont filé ce cocktail empoisonné. Citation : l'infirmerie, c'est une boucherie, pas une infirmerie. Ils soutiennent que chaque jour, Mohamed recevait de l'infirmerie des pilules de Valium, de Tramadol et autres somnifères. Des pilules colorées. Un de ses co-détenus raconte qu'il le retrouvait régulièrement dans de sales états après avoir pris les médicaments donnés par les médecins. Je cite « Le médecin, il donne des calmants, il shoote tout le monde et après peut rentrer se coucher. Dans le centre de rétention, on traite les prisonniers comme des fous. C'est un HP, pas un centre de rétention. Tous les jours, il nous appelle « Venez chercher vos médicaments !» Et les gens, ils courent dans l'état dans lequel ils sont. » Fin de citation. Souvent, à l'intérieur, on nous dit que les médecins administrent des calmants et tranquillisants au moment de l'expulsion et avant que les prisonniers ou prisonnières passent devant le juge pour qu'il ou elle reste bien tranquille. Le lendemain de sa mort, Mohamed devait passer devant le juge des libertés. La veille, avec ses co-détenus, ils avaient évoqué qu'ils ne survivraient pas à 30 jours de plus d'enfermement. Le CRA est un lieu d'enfermement où les prisonniers et les prisonnières sont constamment poussés à bout. Tout pousse à leur destruction physique et psychologique. En plus de l'enfermement, les violences des keufs sont quotidiennes. De l'intérieur, on raconte de ces violences subies par Mohamed comme par tous les autres. Donc, des témoignages. La veille de sa mort, il avait encore mal, parlant de Mohamed. Il s'était fait étrangler par des flics. Tous les jours, on voit des prisonniers qui ont des bleus, des traces de coups. Je suis en train de voir des choses ici que j'ai jamais vues. L'autre jour, j'étais posé avec un gars, il avait mal au ventre. J'appelle les flics. Il y a quelqu'un qui va pas bien. Le flic, il me regarde avec un petit sourire. Il est mort, il respire. Les morts dites accidentelles dans les centres de rétention sont loin d'être rares. C'est le deuxième décès qui a lieu à Vincennes en 3 mois. Le 19 août, un prisonnier de nationalité roumaine était aussi retrouvé mort dans sa cellule. Selon les journaux, sa mort serait due à des médicaments, les prisonniers parlant d'une overdose de méthadone. Lors de cette affaire, au moment de la découverte du corps, les prisonniers avaient été sortis du bâtiment pendant des heures, de manière à ce que personne ne sache vraiment ce qu'il s'était passé. Quand il s'agit d'un mort, il faut vite tout cacher, dissimuler, effacer. Aujourd'hui, les camarades de Mohamed craignent que, encore une fois, les policiers fassent tout pour étouffer l'affaire. Ils appellent à se mobiliser pour Mohamed pour qu'il ne soit pas oublié. Crever dans un CRA n'est jamais un accident, que ce soit à cause de la violence des keufs, du manque de soins, de l'enfermement. C'est le CRA même qui produit ces morts. Dans ce cas, les médecins sont clairement dangereux et responsables, car ils laissent entre les mains de prisonniers et de prisonnières du véritable poison. Voilà, c'est un article de Paris Lutte Info. Alors un autre article, alors là on va au Québec. Le Soleil, c'est un journal de là-bas, du 15 novembre 2019, un article intitulé « C'est elle qu'il faut aider, le cri du cœur d'une mère épuisée ». Un article d'Elisabeth Fleury. Alors, les noms que nous allons donner sont fictifs. Carmen, 67 ans, est à bout de souffle et de ressources. Sa fille de 43 ans, Isabelle, est aux prises avec des problèmes de santé mentale et de consommation. Depuis quelques années, Isabelle enchaîne les séjours en psychiatrie. Dès qu'elle prend du mieux, on lui donne son congé. Sauf qu'une fois à l'extérieur, sans suivi, Isabelle, qui ne reconnaît pas être malade, recommence à se désorganiser. On me dit d'aller chercher de l'aide pour moi, mais c'est elle qu'il faut aider, lance sa mère, découragée. Le Soleil, le journal, a rencontré Carmen jeudi matin. La retraitée, d'allure soignée, parle d'un ton calme, posé. Sa voix tremble légèrement. Ces derniers jours, Carmen a peu dormi. Les policiers ont conduit sa fille à l'urgence psychiatrique mercredi pour la énième fois. Toute la nuit, Isabelle avait appelé sa mère qui ne répondait pas. Elle était en crise, disait avoir du poison dans les veines. Je ne réponds plus, mes boîtes vocales sont pleines de tous les messages qu'elle m'a laissés et je les laisse pleines pour éviter qu'elle m'en laisse d'autres. Explique candidement Carmen, qui a pris cette décision après qu'on lui eut conseillé il y a 3 mois de prendre ses distances de sa fille pour se préserver. Ce que les gens ne semblent pas comprendre toutefois, c'est que ça la rend encore pire que je prenne mes distances et que je ne lui réponde plus. Ça accentue sa colère. Isabelle, donc, est de retour à l'hôpital. La cour prononcera probablement une ordonnance de garde de 30 jours la semaine prochaine. C'est toujours comme ça. Elle se fait évaluer par des psychiatres. Ensuite, le juge ordonne qu'elle soit gardée 1 mois à l'Institut universitaire de santé mentale de Québec. Mais souvent, elle est libérée avant parce qu'elle va mieux. C'est un éternel recommencement, dit Carmen, précisant que sa fille est hospitalisée 2 ou 3 fois par année depuis 7 ou 8 ans. Une année, elle est allée 6 fois à l'urgence psychiatrique. Le problème, explique sa mère, c'est qu'Isabelle ne reconnaît pas sa maladie. Elle aurait un trouble de personnalité limité, un trouble schizoaffectif, et qu'elle refuse donc toute aide. Ce que je veux, c'est que les psychiatres la voient quand elle est à l'extérieur. Elle est complètement désorganisée, elle n'est pas capable de se faire à manger, ses propos ne se tiennent pas. même quand elle n'a pas consommé, elle est complètement détricotée, témoigne Carmen. Et c'est sans compter les crises qu'elle multiplie, les logements qu'elle saccage, les tuyaux ou la toilette qu'elle arrache, les coups de marteau qu'elle envoie dans les murs, obligeant sa mère à lui trouver un autre toit. Cette année, elle a été un mois et demi dans la rue avec son chien, précise sa mère, ajoutant qu'Isabelle a également fait 3 ou 4 séjours en prison ces 4 dernières années. Il y a 3 semaines, je lui ai apporté une épicerie. Alors, au Québec, je ne sais pas ce qu'on appelle une épicerie. Je ne rentre même plus chez elle et je n'y vais jamais toute seule. Mais même sur le pas de la porte, elle a réussi à me prendre par le capuchon de mon manteau et à me rentrer dans le mur, rapporte Carmen, dont la voiture a aussi déjà été vandalisée par sa fille. Elle m'a déjà couru après avec une grosse chaîne, raconte-t-elle encore, une colère que Carmen attribue à la maladie mentale et à la consommation de drogue. Aujourd'hui, elle ne prend que des amphétamines parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer autre chose. Elle vit d'aide sociale. Mais elle a déjà pris des drogues dures, dit sa mère. La sexagénaire insiste, le ton presque implorant. Ma fille doit être encadrée à l'extérieur, elle doit être hébergée dans un endroit supervisé. À l'IUSMQ, on m'a dit qu'elle était trop jeune. Sinon, on me parle de sa consommation, on me dit qu'elle devrait d'abord régler son problème de consommation, mais qu'on ne peut pas aller contre son gré. Et de toute façon, même si elle allait en désintoxication, ça ne lui ramènera pas son cerveau, elle est malade, expose Carmen qui ne sait plus vers qui se tourner pour faire soigner Isabelle et retrouver elle-même un peu de tranquillité. Elle qui s'occupe depuis 10 ans du fils de sa fille et dont le conjoint, qui avait, dit-elle, peur de ma fille, est décédé d'un cancer l'an dernier. Isabelle a encore son père, mais il est complètement dépassé, mentionne Carmen. Il ne comprend pas sa maladie. Il l'a déjà hébergé 1 semaine et il appelait tout le temps la police. Un avocat avait suggéré à Carmen de passer par une demande d'autorisation de soins à la Cour supérieure. Généralement, c'est le médecin ou l'établissement de santé qui demande cette autorisation et qui doit faire la preuve de l'inaptitude du patient. Mais je n'arrive même pas à parler au psychiatre. Je ne veux pas qu'il me dise ce qui est confidentiel, je veux juste qu'il sache ce qu'elle fait quand elle est à l'extérieur. Ce n'est pas la première fois que le soleil fait état du syndrome des portes tournantes en psychiatrie. Le policier de Québec, Yannick Campagna, a d'ailleurs rencontré la ministre de la Santé, Danielle McCann, à ce sujet la semaine dernière. Le patrouilleur avait dénoncé devant le comité de déontologie policière la problématique à laquelle sont confrontés les policiers qui doivent intervenir plusieurs fois par semaine, voire par jour, auprès de patients psychiatriques que les hôpitaux refusent de garder ou libèrent trop vite. Selon lui, trop de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale sont laissées à elles-mêmes dans la communauté. Donc fin de journal, là ça se passe à Québec, ou au Québec. C'est un article du 15 novembre dernier. Est-ce que tu as un commentaire à faire, Yannick ?
Non, pas spécialement.
Non. On voit voilà que le point de vue, l'angle de vue de cette situation est donné par la mère de la personne psychiatrisée. Et donc le point de vue, quelque part, de la famille. Alors, on voit comme que cette femme a un discours. Elle pense que la psychiatrie va résoudre les problèmes de.
Ouais,
de
typique, sa fille. C'est typique. Ouais. Donc, elle parle au nom de sa fille, quoi. C'est ça.
Ouais.
Ouais, tout simplement. sa fille n'a pas la parole, quoi.
Tout à fait. Un autre article. Alors, bon, là, on va attribuer un entonnoir d'or, comme on a l'habitude de faire. On décerne un prix, enfin, une espèce de trophée, à toutes les personnes qui vont avoir un discours psychiatrisant pour quelque chose qui n'a pas à l'être, en fait, psychiatrisé. Par exemple, alors là, bon, ça part d'un... comment dire, d'une info assez dure, assez dramatique. C'est à propos de l'immolation par le feu d'Anaska, l'étudiant de Lyon. Et alors, c'est le 14 novembre 2019, l'Obs écrit un article à ce propos. Le titre, c'est, à propos de ça, « Le gouvernement refuse de parler de gestes politiques ». Dans un message posté sur Facebook avant de passer à l'acte, Anaska a pourtant explicitement fait part de la portée politique de son geste. Je lis. Près d'une semaine après qu'un étudiant s'est immolé à Lyon pour protester contre la précarité, la colère ne faiblit pas dans le milieu étudiant. Mais du côté du gouvernement, c'est le malaise. Plusieurs ministres et représentants ont multiplié les déclarations relativisant la portée politique de l'acte du jeune homme. En contradiction totale avec le message laissé par ce dernier, pourtant tout à fait explicite. Dernière en date à s'être exprimée sur le sujet, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Bon, alors je précise que c'est à elle que nous allons attribuer un entonnoir d'or cette semaine. Invitée sur France Inter jeudi 14 novembre, elle a expliqué que, bien que le jeune homme de 22 ans, je cite, « a laissé un message qui laisse à penser que c'est un acte politique », elle appelait, je cite, « à beaucoup de prudence parce qu'avoir un geste aussi fort, aussi tragique, ce n'est certainement pas exclusivement parce qu'on a une revendication politique ». La veille, elle avait déjà tenu des propos en ce sens, rappelant qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de l'acte de cet étudiant et estimant qu'il était, je cite, « important de regarder le contexte psychologique ». Voilà, c'est la phrase clé qui fait qu'on lui attribue son entonnoir d'or. Là aussi, elle a évoqué le message laissé par l'étudiant. Il a effectivement laissé un message qui semble désigner un geste qu'il qualifierait peut-être, lui, politique, a-t-elle concédé. Une petite phrase épinglée par le chroniqueur de Canal+, Clément Viktorovitch. Celui-ci a relevé les pirouettes grammaticales utilisées par la porte-parole pour relativiser le geste de l'étudiant, utilisant un verbe modalisateur, un conditionnel et un adverbe de modalisation. On est dans la triple énonciation du doute, explique-t-il. Donc je répète la phrase, c'est « il a effectivement laissé un message qui semble désigner un geste qu'il qualifierait peut-être, lui, politique. » Voilà. De son côté, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes, Amélie de Montchalin, a, elle aussi, remis en question la portée militante de l'immolation de Anaska. « Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un acte politique », a-t-elle déclaré sur Public Sénat mercredi. On comprend bien qu'il y a des revendications, des difficultés. Ce que je trouve dangereux, moi, c'est que dans notre démocratie, certains groupuscules, certains militants se servent de cet événement, le récupèrent. » Fin de citation. La secrétaire d'État faisait référence aux manifestations d'étudiants en soutien à Anaska. Mardi, des rassemblements ont eu lieu devant de nombreux CROUS de France pour protester contre la précarité étudiante. Mardi, c'était il y a 8 jours. Derrière cet empressement à nier la dimension politique du suicide d'Anaska, la stratégie de communication du gouvernement semble cousue de fil blanc. Difficile en effet d'admettre que l'on porte une part de responsabilité dans l'acte dramatique du jeune homme. Celui-ci a pourtant été on ne peut plus explicite. Dans un message posté sur Facebook, Anaska a en effet accusé, je cite, « Macron, Hollande, Sarkozy et l'UE, l'Union européenne, de l'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de tous. » Évoquant le lieu où il s'apprête à passer à l'acte devant le CROUS de Lyon, il a d'ailleurs écrit avoir, je cite, visé un lieu politique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et par extension le gouvernement. L'étudiant a ensuite conclu son message en joignant ses camarades à continuer de lutter. Eh bien, voilà, alors, la petite revue de presse de l'entonnoir est terminée. Et nous sommes toujours sur Radio Libertaire, et c'est Critique de la psychiatrie. Alors, Yannick, bon, peut-être une dernière question pour conclure. Par rapport à ces problématiques autour de la psychiatrie, de la psychiatrisation de la société et des individus, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Déjà, je pense qu'il existe ce qu'on appelle des thérapies qui peuvent fonctionner, comme par exemple Open Dialogue, qui a été instauré, je ne sais plus si c'était en Finlande ou en Norvège.
En Finlande, je crois.
En Finlande, oui. Qui plutôt fonctionne bien et qui prouve que tout ce qu'on appelle schizophrénie ou troubles bipolaires et tout ça, c'est pas ad vitam aeternam, c'est guérissable. C'est quelque chose qui, entre guillemets, guérissable, parce que évidemment, c'est pas vraiment. Ben, si, c'est des maladies. Hein. Tel qu'on les nomme, c'est des maladies. Mais voilà, c'est pas des choses qui nous suivent toute la vie. Et il faut savoir aussi que les médicaments sont vecteurs de maladies. De ces maladies-là, justement, notamment. Et pas que. Par exemple, le diabète ou des choses comme ça. Il y a ce qu'on appelle le terme iatrogène. C'est un terme qui définit assez bien la psychiatrie en général. Ça veut dire que c'est des maladies qui sont induites, volontairement ou non, hein, plutôt involontairement en général. C'est des maladies qui sont induites par les médecins et ou par les médicaments.
Oui, par le contexte médical, en fait.
Exactement. Voilà. Et ça peut être très rentable d'avoir des malades pour cette psychiatrie qui vit un peu au crochet de l'État, qui prend beaucoup d'argent sur la société, c'est vachement viable.
Un terme couramment utilisé en psychiatrie, c'est la chronicité.
La chronicité.
Oui, c'est-à-dire que disons que les personnes sont chronicisées dans leur maladie.
C'est-à-dire... Oui, on répète un peu le schéma, on fait en sorte que le schéma se répète, en quelque sorte, involontairement ou non, encore une fois. C'est quelque chose qui est principalement induit par les médicaments. Quand on prend un médicament qui est censé apaiser un effet, par exemple l'anxiété, très bon exemple, si on prend un médicament contre l'anxiété, ou pour le sommeil, hein, c'est l'exemple aussi avec les somnifères, quand on arrête le médicament en question, eh ben on est, en quelque sorte, on développe une espèce de une certaine dépendance. Je dirais pas que c'est ce qu'on appelle la dépendance, enfin si, c'est un lien avec la dépendance typique qu'on appelle, c'est une certaine dépendance qui va faire en sorte que on a besoin de reprendre le médicament pour retourner dans son état où on était bien. Et donc, on est en quelque sorte tributaire du médicament qui ne nous fait pas forcément du bien non plus, parce qu'il peut déclencher des problèmes, notamment diabète, comme j'ai dit, ou ce qu'on appelle l'akathisie tardive. Non, pas l'akathisie tardive. L'akathisie, c'est autre chose. La dyskinésie tardive, qui est des problèmes de mâchoire, de main, c'est des tremblements, des toutes sortes de problèmes dus à des... C'est un peu un lien avec Parkinson, qui est un manque de neurones. C'est une destruction des neurones, finalement. Et cette destruction des neurones peut créer la dyskinésie tardive, qui agit en général à un certain âge après la... après la prise de traitement.
Plusieurs
années après la prise de traitement, ouais. Même si on a arrêté, même si on continue. Enfin voilà, c'est quelque chose qui, c'est une dégénérescence neuronale qui peut avoir lieu sur certaines personnes âgées qui ont été psychiatrisées, sur des gens qui prennent même des médicaments, qui ça peut arriver immédiatement. C'est ce qu'on appelle la dyskinésie tardive, c'est quand ça arrive plus tard. Si on dit dyskinésie, c'est immédiat et c'est quelque chose qui moi j'en ai eu parce que j'ai eu quand j'étais hospitalisé, j'ai eu du Loxapac. Hein. Il paraît que c'est quelque chose qu'on donnait dans les camps soviétiques comme une torture. C'est Loxapac, c'est un médicament qui provoque généralement ce qu'on appelle les dyskinésies de mâchoire, que j'avais une dyskinésie de mâchoire. Je bavais sans arrêt. Hein. Quand on voit les gens en état critique dans les hôpitaux psychiatriques, en général, c'est les médicaments qui font ces effets-là. Quand on les voit baver, quand on les voit ralentis comme ça, c'est...
Les médicaments, voilà. Alors, c'était la rediffusion d'une émission, merci Yannick, d'une émission du 20 novembre 2019. Alors, je finis avec... on finit avec un extrait d'une chanson de Astéréotypie. Et on se retrouve ensuite avec... Un rayon de soleil en direct sur Radio Libertaire.
Bonjour à tous.
Bonjour Fabrice.
20 euros me fait pleurer avec sa beauté. La copine de 20 euros, c'est 50 euros. Ce sont de très bonnes copines. 100 euros, c'est le grand-père de 20 euros. Il est très gentil. Il fait des cadeaux à sa petite fille, 20 euros. C'est la grand-mère de 20 euros. Elle est très gentille également. Un jour, 20 euros, cette jolie fille fait un très beau cadeau à son grand-père, 100 euros. J'ai demandé à la mère de 20 euros si je peux me marier avec sa fille. Elle m'a dit oui, et c'est le plus beau jour de ma vie. Reflet de lumière, ce joli filigrane qu'elle a, oui, et oui, je suis tombé amoureux d'elle. 10 euros, la petite sœur de 20 euros est très contente que je me marie avec sa grande sœur. Ce sera magnifique, ce sera formidable, ce sera le plus beau jour de ma vie. Le mariage aura lieu à la Banque de France et le président de la Banque Centrale Européenne sera le prêtre. Je t'aime, 20 euros. Tu es tout pour moi. Tu es le bonheur de ma vie. Tu es mon bien-être, l'amour de ma vie. Tu as quelque chose que les vraies filles n'ont pas. Tu as quelque chose de magique, de sublime. Tu es plus joli, tu es plus séduisant. Ta présence me fait du bien. Je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. Reste dans ma vie, ne t'en vas pas. Reste présente à mes côtés. Tu n'as pas de robe, mais le bleu clair est ton plus bel habit. Amoureuse avec un billet de banque, c'est mieux que d'avoir une relation amoureuse avec une vraie fille. Mais si ça marche pas avec 20 euros, j'irai bien me marier avec Siri.